Bonjour mes bien-aimés. Hier matin, le texte que le Seigneur nous avait donné était celui-ci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et je vous ai rappelé que cette parole revenait 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. À 7 reprises, Dieu nous a dit hier que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et ensuite, je vous ai lu comment l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Dieu qui était à Corinthe, aux sanctifiés, à ceux appelés à être saints et à tous ceux en quelque lieu que ce soit qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoutait, et leur Seigneur, et le nôtre. Et nous lui avons demandé, puisqu'il nous demandait d'avoir des oreilles attentives, nous lui avons demandé d'ouvrir nos oreilles. Nous lui avons demandé d'ouvrir nos yeux. Et nous lui avons demandé d'ouvrir notre cœur. Et nous lui avons demandé d'avoir du souffle pour arriver à la fin de cette retraite. Eh bien, mes amis, je voudrais commencer ce matin en vous demandant pardon. Pardon à ceux que j'aurais pu blesser hier soir. Sans l'avoir voulu, à ceux que j'ai certainement irrités alors que je ne le cherchais pas, à ceux même que j'ai pu énerver pour la simple raison que, comme Jésus, le jour de la dédicace, et c'était en hiver à Jérusalem, il se promenait dans le temple. Et je sais que peut-être je vous ai irrité en me promenant ici, dans le temple, en faisant cette marche hygiénique. Eh bien, mes amis, je crois qu'hier soir, Dieu nous a permis de vivre ensemble notre thème. Le vrai problème de l'heure, qui ne devait pas rester quelque chose de théorique, mais quelque chose que nous aurons vécu, que nous aurons connu, qui nous a été démontré. Je ne sais pas dans quel sentiment vous vous êtes couché hier soir. Et personnellement, je savais que plusieurs s'était senti frustré et n'avait pas du tout aimé la manière dont j'ai été conduit. D'abord, peut-être, à vous raconter ce qu'avait été mon dernier voyage en Europe. Et surtout, le fait de vous avoir lu si longuement des extraits d'un écrit d'un livre fait par ce prêtre au soir de sa vie, alors qu'il fait encore partie de cette église où la plupart d'entre vous vous êtes nés et que plusieurs parmi vous continuent d'appeler une église païenne, pour ne pas dire la grande Babylone qui va être détruite. Oui, mes amis, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, si je me trompe sur la réalité de vos sentiments. Il y avait, visiblement et sensiblement, des gens irrités, frustrés, énervés. Et vous vous êtes senti frustré. Et alors la meilleure façon de montrer ces sentiments d'hostilité, c'était de vous efforcer de ne pas écouter et de vous dire, au fond, quand finira-t-il de nous faire avaler cette tartine? Nous ne sommes pas venus à cette retraite pour entendre un homme nous lire les extraits du livre d'un autre homme. Nous étions venus pour rechercher le vrai problème de l'heure et le découvrir à la lumière de la parole de Dieu. Parole que, semble-t-il, vous n'avez, pour ainsi dire, pas entendue hier soir. Alors que pourtant, si vous vouliez réfléchir, la plupart des textes que nous avons lu de ce livre contenait la parole de Dieu. Alors personnellement, moi, en rentrant dans ma chambre, je me suis agenouillé. Et ne me prenant pas pour un homme infaillible, je me suis jugé, je me suis humilié devant mon Dieu en demandant que si je m'étais laissé circonvenir par Satan, ce qui peut arriver, eh bien, je demandais au Seigneur, à l'instar du prophète Élie, qu'est-ce qu'il demandait Élie? Seigneur, reprends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, fais-moi disparaître. Je suis un homme radical. Si j'ai erré, Seigneur, reprends ma vie. Si j'ai pu être une pierre d'achoppement pour un seul de mes frères, fais-moi mourir cette nuit. Et finalement, je me suis couché en mettant la sonnerie de ma montre à 4h30, tout en sachant bien que je n'avais pas besoin de cela, car habituellement, c'est le Seigneur qui me réveille. Et ce matin, 10 minutes avant 4h30, il m'a réveillé. Mais j'étais encore en vie. Et il me donnait cette parole. Cette parole que j'ai mise là. Or moi, très volontiers, je dépenserai et serai entièrement dépensé pour vos âmes, si même, en vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. Et encore, et maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore à des hommes, je ne serais pas l'esclave du Christ. Je me suis donc levé en me demandant si aujourd'hui nous ne devrions pas supprimer le culte de Sainte-Cène, puisque je sentais nettement que tous n'avaient pas le même sentiment et que la communion horizontale n'existait guère et qu'il y avait un esprit de jugement entre nous. Alors ce matin, cela m'est apparu comme étant une manifestation du vrai problème de l'heure. Nous sommes des chrétiens qui n'avons guère l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est pourquoi je terminerai en lisant avec vous une des plus belles pages que nous a données l'apôtre Paul, une page que vous aimez, mais que nous devons vivre. C'est quelle page? 1 Corinthiens, chapitre 13. Parce que je vois qu'il y a parmi vous des âmes qui souffrent, parce qu'ils ont des parents qui ne sont pas encore sauvés. Et je voudrais avec vous que vos parents soient sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, mes frères et sœurs, il faut que vous vous changiez d'attitude. Il faut que vous vous enleviez les pierres que vous avez mises sur le chemin qui les empêche de croire à cette parole que vous voudriez leur faire entrer de force. Et alors, je vous aime assez pour vous dire, il faut que vous preniez cette clé, la vraie clé, qui sera d'être humble, de ne pas donner à croire que vous, vous avez la lumière. Parce qu'avec cette attitude, vous éblouissez les gens. Vous ne les éclairez pas. Baissez vos lumières. Baissez vos phares. Éclairez leur route. Mais ne les éblouissez pas. Parce que quand on est ébloui, on est obligé de fermer les yeux. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes et que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son propre intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, après cette lecture, que pouvons-nous demander à Dieu, sinon de prendre en main le reste de cette retraite et demander à Dieu que nous ne restions pas des Laodicéens qui disent « Moi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Alors que nous n'avons pas découvert que nous étions pauvres, vraiment pauvres, que nous étions aveugles, que nous étions nus, que nous avions besoin de cet or passé au feu, d'un collyre pour oindre dans nos yeux, pour que nous puissions voir, et de vêtements pour que notre nudité ne paraisse pas. Et puis que nous puissions vraiment tendre l'oreille pour entendre le Seigneur frapper à notre porte. Afin que nous puissions vraiment ouvrir au Seigneur. Et que cet après-midi, il puisse entrer et peut-être. Qu'est-ce qu'il fait quand il entre ? Souper avec nous. De son dernier souper. Souper avec nous. Et nous, avec lui. Dans une communion réelle. Dans une communion retrouvée avec lui. Qui est en communion avec tous ceux qu'il aime. Où qu'il se trouve. Il y a des âmes qu'il aime. Je ne peux pas être en communion avec le Seigneur. Et ne pas me trouver en communion avec tous ceux qui aiment le Seigneur. Et lui les connaît. Ce n'est pas de dire j'aime Dieu qui fait que j'aime le Seigneur. C'est de le manifester dans ma vie et de me réjouir d'être dans sa maison. Notre Dieu, hier nous t'avons demandé des oreilles pour entendre. Mais nous te confessons et nous nous humilions parce que nous avons fermé nos oreilles et nous avons voulu les boucher parce que nous ne voulions pas entendre certaines choses. Nous t'avons demandé des yeux pour voir et nous avons voulu nous mettre des œillères. Nous avons refusé de voir les choses comme toi tu les vois. Nous t'avons demandé un cœur sensible. Et notre cœur s'est endurci, s'est irrité. Nous t'avons demandé du souffle. Et je veux m'humilier devant toi, Seigneur. Parce que moi-même, j'ai eu l'impression de ne plus avoir de souffle. Et je t'ai demandé même de retirer mon souffle. Alors que je t'avais demandé d'avoir du souffle jusqu'au bout. Mais dans ton amour, dans ta grâce, nous sommes encore debout. Et nous croyons que tu nous donneras ce souffle jusqu'à la fin de la tâche que tu nous as assignée. Et qui n'est pas de chercher à plaire à des hommes, mais d'être ton témoin, sans nous soucier de ce qu'on peut penser de nous ou de ce qui peut nous arriver. Que ta gloire éclate à la fin de cette retraite et que ce soit toi qui es le dernier mot et qui triomphe sur nous tous et nous amène dans la communion. Du Père et du Fils et dans la communion les uns avec les autres pour que cette unité du corps du Christ soit manifestée et qu'aujourd'hui nous puissions embrasser dans nos cœurs tous ceux que toi tu reconnais pour les tiens.
qu'il en soit ainsi et que tu nous bénisses dans le repas qui vient pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, nous sommes donc déjà dans notre dernière journée de cette retraite en ce dimanche matin 7 décembre 1986 et nous continuons le thème « Le vrai problème de l'heure » en ayant toujours comme arrière-plan biblique en particulier la première épître de l'apôtre Jean, ce disciple bien-aimé du Seigneur qui avait pris Marie chez lui sur l'ordre de Jésus sur la croix. Ô Dieu notre Père, nous voudrions passer avec toi quelques minutes d'éternité. Nous voudrions entrer dans le sanctuaire même et entendre ta voix. Nous voudrions épancher notre cœur dans ton cœur, ô notre Père, et laisser ton cœur remplir notre cœur de ton amour, de ta paix, de ta joie. Nous te remercions de nous accueillir ce matin. Et nous voulons te demander que nous puissions aussi nous accueillir les uns les autres, comme Christ nous a reçus. Pour la gloire de Dieu. Amen. Vous venez de lire ces derniers chapitres de l'évangile, de la première épître de Jean, et je passe rapidement sur ce chapitre 3, où l'apôtre nous demande de constater de quel amour le Père nous avait fait don, quel amour il nous a témoigné pour que nous soyons, nous, appelés les enfants de Dieu. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'être enfant de Dieu? Et comment pouvons-nous l'être? Bien, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Qui? Jésus. Il leur a été donné le droit, le pouvoir. C'est pas moi qui le leur donne. Il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et il est dit, lesquels sont nés, non de la volonté, du sang et de la chair. Ce n'est pas à nous qui pouvons faire naître une âme à la vie nouvelle, par nos arguments, qui sont si souvent charnels, ou par notre volonté, par notre persistance, parce que nous voulons que les choses se passent comme ça. Nous nous trompons totalement. Non par la volonté du sang et de la chair, ni par la volonté de l'homme, nous voulons toujours convertir. Jésus ne cherchait pas à lui à convertir. Il était là pour accueillir ceux que le Père attirait à lui. Et il était là pour les sauver et pour les conduire au Père. Il disait, moi, je ne peux rien faire de moi-même. Lui, le Seigneur, je ne fais rien de moi-même. Et je ne peux rien dire de moi-même. Ce que je dis, c'est que ce que j'ai entendu dire du Père, et ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire par le Père. Alors comprenons bien cela. C'est une grâce qui nous a été faite. Nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes. Mais c'est une certitude, est-ce que nous avons cette certitude pour nous-mêmes? Nous le sommes, alors ayez cette certitude pour vous-mêmes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Jésus n'a pas été connu. Et la preuve, c'est qu'il a été crucifié. Alors que nous avons vu qu'il était l'homme le plus aimable qu'on puisse trouver, rencontrer sur la terre. Alors, ensuite, vous avez lu, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand est-ce que c'est que nous sommes? Mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, si nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous sommes enfants du Père des Lumières, alors qu'est-ce que nous devons être? Lumière dans le Seigneur. Lumière non pas pour éblouir les autres, mais pour éclairer la route de ceux qui cherchent encore. Nous sommes enfants du Père des Miséricordes. Alors qu'est-ce qui doit nous habiter dans notre cœur? La miséricorde, parce que nous étions des misérables et que le Seigneur nous a fait miséricorde. Alors, ayons de la miséricorde pour les autres et croyons à la miséricorde infinie de Dieu pour les autres, même pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Vous n'avez pas toujours pensé comme vous pensez aujourd'hui. Il a fallu du temps pour que vous arriviez à penser ce que vous pensez aujourd'hui. Alors comprenez qu'il y en a d'autres qui ne pensent pas encore comme vous vous pensez aujourd'hui. Et ayez aussi de la patience. Et puis ne croyez pas que vous avez toute la lumière. Parce qu'alors, vous seriez en contradiction totale avec la parole que nous avons pourtant lue ce matin. Nous connaissons en partie. Et c'est justement parce que nous avons une vue très partielle des choses que souvent nous nous opposons les uns aux autres. Parce que l'un voit surtout un aspect d'une vérité, tandis que l'autre insiste surtout sur l'autre aspect de la vérité. Et alors, si l'on veut commencer à se bagarrer pour que je puisse prétendre que c'est moi qui ai raison, qu'est-ce qu'il arrive? On se sépare et on se divise. Tandis que si l'on prie et si l'on demande, Seigneur, mais éclaire-moi, peut-être qu'il y a quelque chose que moi je ne vois pas encore, ou que moi je ne comprends pas encore d'une façon complète, eh bien le Seigneur peut nous éclairer. Il y a un seul esprit, et ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui aime tous les hommes, qui ne fait exception de personne, et qui veut, qu'est-ce qu'il veut? Vous la connaissez, sa volonté, que tous les hommes soient sauvés et que tous viennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas un ensemble de formules ou de dogmes, mais c'est une personne dans laquelle on croit de plus en plus, dans laquelle on grandit, dans laquelle on est bâti. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, nous qui ne connaissons qu'en partie, eh bien, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Oh, combien nous soupirons après ce moment. Parce que nous lui ressemblons si peu. Et vous savez, c'est pas de chanter ce petit cantique là, en tournant la manivelle. Te ressembler, Jésus. Vous connaissez ça, hein? Il est très beau. Mais voilà, vous chantez ça 36 fois, un beau petit cœur, te ressembler, Jésus. Puis, au fond, on ne lui ressemble pas tellement. Parce qu'on a des sentiments qui habitent dans nos cœurs. Nous ne ressemblons pas tellement à Jésus, puis on le chante 3 fois, 4 fois, 5 fois, puis après on part dans les nuages. Si on croit que c'est le réveil. Puis après, on fait des grimaces aux autres. Te ressembler, Jésus, c'est mon bonheur suprême. Rendez-vous compte. Nous blasphémons dans nos cantiques. Il y a une manière de chanter des cantiques qui blasphème plus que dans les tavernes. Dans les tavernes, on sait qui sont les blasphémateurs. Mais quand on chante certaines choses de telle manière devant Dieu, nous blasphémons le nom du Seigneur. Et nous avons besoin vraiment de rentrer en nous-mêmes et de demander pardon au Seigneur. J'ai dit cela à Bruxelles, oui. En pleine église, où justement, on voulait absolument changer tous les cantiques. Parce qu'on ne veut plus chanter certains cantiques. Ils sont trop vieillots. Or, ces cantiques tellement vieillots, ils ont été écrits par des hommes de Dieu, qui n'étaient pas des anciens drogués, qui se sont mis ensuite à gratter sur une guitare des versets bibliques. Plus à Dieu qu'il y en ait, hein. C'est pas ce que je dis. Mais attention, hein. Ne méprisez pas vos anciens. Parce que s'ils n'avaient pas été fidèles, s'ils ne nous avaient pas communiqué la parole, nous ne la connaîtrions pas. Et ne méprisez pas les pères de l'Église, avant les réformateurs. Parce qu'il n'y avait pas eu les pères de l'Église, nous n'aurions pas la Bible. Comprenez cela un peu. Et puis, aller plus loin qu'il y a 400 ans, 450 ans, j'aime les réformateurs, c'est vrai, ils ont souffert, ils ont été incompris, mais avant eux, il y a eu, au cours de toute l'Église, et même dans les heures les plus sombres de l'Église, des hommes de Dieu, qui ont cherché à maintenir, au sein même des ténèbres et des persécutions qu'ils souffraient dans leur propre Église, ceux qu'on a appelés les précurseurs de la réforme, qui voulaient qu'on revienne à la parole. Eh bien, souvenez-vous que, au cours de l'histoire de l'Église, qui a commencé à la Pentecôte, eh bien, il y a eu quand même, au travers des heures les plus sombres, des hommes qui ont été des flambeaux, et qui même, si j'osais faire un jeu de mots, ont flambé, littéralement, sur des bûcher. Et non pas parce qu'ils étaient des hérétiques, mais parce qu'ils étaient des prophètes et qu'ils disaient des choses qui étaient en avance sur leur temps. Et si vous relisez l'Ancien Testament, vous verrez que les prophètes, c'étaient des hommes qui annonçaient non pas ce qu'ils pensaient, leur propre vue, les vrais prophètes, il y avait des faux prophètes, mais ils se tenaient devant Dieu et ils apportaient la parole. Et cette parole était pour eux en opprobre. Souvenez-vous de Jérémie. On complotait contre lui. On voulait le faire disparaître. Même les gens de sa propre maison, dans sa propre famille, bien, il a persévéré. Alors nous nous réjouissons parce qu'un jour nous lui serons semblables. Car nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Dans toute sa beauté. Alors, cherchons déjà à le contempler, mais de la vraie manière. Nous tous contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et alors, quand on a fait espérance en nous, on se purifie comme lui-même, et pur. On désire être gardé de toute souillure. Et encore une fois, je le répète, Jésus, il était proche de toutes les âmes. Il allait dans tous les milieux, mais il était séparé de toutes les souillures. Mais il était proche de toutes les âmes. Et il avait une parole qui édifiait, qui restaurait, qui accueillait. Même un païen qui est venu lui demander une grâce pour son serviteur ou pour son fils, il lui dit, va, ton fils vit. Voilà la grâce du Seigneur. Et une cananéenne qui était dans la détresse pour sa fille et qui criait après lui, les disciples disaient, envoie cette femme. Parce que les disciples sont des gens durs. Et voyez-vous, nous sommes des gens durs. C'est vrai de vrai. Nous sommes des gens durs. Mais on ne veut pas le reconnaître. Or, la dureté, c'est un péché. Comme aussi l'angoisse, c'est un péché. C'est ce qu'on m'a demandé, comment être délivré de l'angoisse. Appelle ton angoisse péché, parce que tu n'as pas le droit d'être angoissé. Et moi, je suis un homme soucieux. Et le Seigneur m'a montré un jour, appelle tes soucis péché, parce que tu n'as pas à te mettre en souci. Quand tu te mets en souci, tu me désobéis, parce que moi j'ai dit, ne vous mettez pas en souci. Je désobéis. Alors donc, quand je me mets en souci, je pêche. Qui est-ce qui va porter mes soucis? C'est le Seigneur. Rejetant sur lui tous vos soucis et le péché qui vous enveloppe si facilement. Et votre angoisse, appelez tout cela péché parce que Jésus a été angoissé pour que vous ne soyez plus angoissé. Comprenez-vous cela? Lui, il a été frappé pour que vous ne soyez pas frappé. Alors comprenez cela. Dans son angoisse, votre angoisse a été absorbée. Et moi qui étais malade dans la souffrance bien des années, dans ma jeunesse, puis au cours de toutes ces années, j'ai dû passer par bien des opérations douloureuses. Eh bien, dans les moments les plus pénibles, où il me semblait que la douleur devenait insupportable, c'est toujours quand j'ai pensé aux souffrances du Christ sur la croix que j'ai réalisé qu'il absorbait ma souffrance dans ses souffrances et que j'avais un moment de répit. Et c'est vrai de vrai, cela, chers amis. On le sent jusque dans notre chair, jusque dans nos os, quand tout à coup on pense à ses souffrances. Nos souffrances sont absorbées dans les siennes. Comme aussi, quand on confesse nos péchés, on sait que nos péchés, c'est lui qui les a portés et qui les a expiés sur la croix. Alors on est sans conscience de péché. On n'a plus cette conscience tourmentée parce qu'on l'a dit au Seigneur. Et c'est comme cela qu'on a la délivrance. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Alors, si c'est lui qui est votre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de péché non plus en vous, en celui qui est votre vie. En ma chair, oui, il y a du péché. Mais en lui qui m'habite, il n'y a pas de péché. Et qu'est-ce qui est ma vraie vie? Ma chair? Non, ma chair, elle est crucifiée avec Christ. C'est lui qui, dans sa chair, a expié mes péchés, de sorte que tout le compte de mes péchés, il les a pris à son compte. Pour que moi, je comprenne qu'il n'y a pas de péché en lui. Alors, je vis sans conscience de péché dans la mesure où c'est Christ qui occupe mes pensées. Mais si c'est moi qui suis toujours au centre de mes pensées, eh bien évidemment je suis un malheureux, mais je suis préoccupé de moi-même. Or, c'est cela qui est détestable chez nous autres chrétiens. Nous sommes préoccupés de nous-mêmes. Nous sommes le nombril du monde. Et le monde s'en rend bien compte. Mais c'est le Seigneur qui devrait occuper nos pensées. Et dans la mesure où il occupe nos pensées, eh bien, nous sommes transformés à son image. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Et c'est vrai, si je demeure en Christ, s'il est ma demeure, eh bien, je ne pratique pas le péché, je le sais bien. Mais quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. On peut nous parler du Seigneur, on peut avoir toujours le nom du Seigneur dans la bouche et pourtant être aussi des menteurs. Petits enfants, alors voyez l'amour de Jean, que personne ne vous séduise, parce qu'il peut y avoir des séducteurs. Celui qui pratique la justice est juste, et ne remettez pas en cause la justice de celui qui pratique la justice. Ne dites pas, oh, il fait cela, mais pourquoi? De quel droit est-ce que nous avons à juger les autres de cette manière, frères et sœurs? Nous allons être bientôt devant Dieu, et dans une lumière fulgurante, il va nous manifester notre vie. Nous avons cru à certains moments que nous étions dans la bonne décision, nous prenions une décision, nous l'acclamions publiquement, et puis tout à coup nous nous sommes aperçus que nous nous étions trompés. Et nous serions si durs pour d'autres. Comprenons que nous avons à rentrer en nous-mêmes et à nous juger nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas toujours conduits comme si nous étions vraiment dirigés par le Seigneur. Nous pensions être dirigés par le Seigneur, puis tout à coup, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés. Alors, acceptez aussi que d'autres puissent avoir de la peine à voir leur chemin et ayez de la patience aussi pour eux. Mais ne remettons pas en doute la justice de celui qui la pratique. Parce que c'est ça. Jésus l'a dit. Vous avez vu ce que je vous ai fait, hein? Mais vous êtes bien heureux seulement si vous faites ces choses. Vous savez ces choses, ça vous le savez. Mais vous êtes bien heureux seulement si vous les pratiquez. Celui qui pratique le péché est du diable. Ça y est, c'est incontestable. Et le diable, il pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Il est possible d'être vainqueur de Satan et de toutes ses œuvres du diable, de ce diable qui est le prince de ce monde. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en lui que je demeure et que je veux rester. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors, est-ce que nous aimons nos frères? Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il était jaloux de voir que Abel était agréé, était accepté. Et ça l'a jugé, il s'est senti jugé. Parce que, au fond, ses œuvres à lui n'étaient pas justes. Non, ne vous étonnez pas si le monde vous hait, ça c'est facile. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Est-ce que nous aimons les frères? Mais qui sont nos frères? Vous savez, on posait des drôles de questions à Jésus. Il lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu connais les commandements? Il dit lesquels? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pour se justifier, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur de la loi? Mais qui est mon prochain? Et alors, il a fallu que Jésus raconte cette merveilleuse parabole que tout le monde connaît, celle du bon Samaritain. Et les Samaritains, c'était des gens qu'on appelait des païens. Et il montre justement que c'est un païen, un samaritain, qui est vraiment le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands, parce que c'est lui, tout samaritain qu'il est, qui a usé de miséricorde envers ce pauvre homme qui gisait dans son sang. Alors vous savez, ça nous remet en place, nous autres. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est pas un liquide. Hein? C'est pas de l'essence. du gaz. La vie éternelle, c'est quelqu'un. C'est le Seigneur. Alors le Seigneur ne tue pas. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et alors nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, vous voyez comme il les aime, il doit leur dire des choses fortes. Mais il dit, n'aimons pas en parole et en langue. C'est facile d'aimer en parole et en langue. Mais aimons en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Figurez-vous que si notre cœur nous condamne, ben, Dieu alors, il est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Alors, si mon cœur est déjà en train de me condamner, mais qu'est-ce que je ferai quand je serai devant Dieu? Dieu est plus grand que mon cœur. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Il faut qu'on soit sensible. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements, il demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et voyez-vous, ailleurs il est dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. La loi, qu'est-ce qu'elle disait? Faites ces choses et vous vivrez. Alors, évidemment, c'était pénible, il fallait faire. Tandis que Jésus, qu'est-ce qu'il est? Il est la vie. Il est lui-même la vie. Alors, si nous avons la vie, qu'est-ce qui fait les commandements en nous? C'est Jésus lui-même. C'est lui qui a parfaitement accompli la loi. Alors, il devient notre vie. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais ayant Jésus, nous savons que lui a accompli la loi. Alors, nous ne tuerons pas. Nous serons gardés de commettre adultère ou de dérober. Parce que nous avons le Christ en nous. Il est notre vie. Je ne suis plus sous la loi qui m'ordonne de faire. Je suis en celui qui est la vie et qui a pleinement réalisé la loi, qui l'a rendue grande et honorable. Alors, bien aimé, maintenant, chapitre 4. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et c'est clair qu'il y a des faux prophètes aujourd'hui dans le monde. Tous ceux qui parlent selon leur propre esprit et qui n'ont rien vu. Alors, il y a un test pour les reconnaître. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Alors, c'est clair, je ne peux pas vous en dire plus. Vous l'avez lu. Alors, je vous demande, relisez cela. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, qu'est-ce que ça veut dire, venu en chair? Il préexistait. Hein? Nous, nous sommes nés de la chair. Tandis que lui, il est venu en chair. Ça veut dire qu'il préexistait avant de naître. Le commencement du Fils de Dieu n'a pas été à la crèche, pas plus que sa fin ne serait à la croix. Il préexistait, il était de toute éternité, il était avec Dieu, et étant avec Dieu, il est venu en chair. Il s'est manifesté en chair, et la venue de Jésus n'a pas été une nouvelle théophanie, comme dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est qu'une théophanie? Eh bien, on appelle théophanie une de ces manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, quand il apparaissait sous une forme humaine aux hommes. Hein. C'est ce qu'on appelle une théophanie. Il apparaissait, par exemple, il est apparu à qui? À Abraham, n'est-ce pas? À Moïse, à Gédéon et à d'autres. Il est apparu à un moment donné, hein, et même à une femme. Vous rendez-vous compte? Il ne faut même pas oublier nos sœurs. Il est apparu à qui? À la femme de Manoa, la mère de Samson. Et puis, on pourrait encore en ajouter. Mais quand Jésus est venu en chair, quand le Fils de Dieu s'est manifesté en chair, alors c'était vraiment l'incarnation. Il s'est fait homme, comme nous allons le voir tout à l'heure. Il était Dieu, mais il s'est fait homme. Et réellement un homme. Un homme, comme nous l'avons souligné hier soir, que nous devons contempler pour voir qu'est-ce que Dieu veut de l'homme. Qu'est-ce que c'est un homme pour Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait de nous? Ben, il nous a montré ce qu'était un homme, en qui? En Jésus-Christ. Et c'est en lui que je vois ce qu'est réellement un homme. Il a été réellement un homme. Il a revêtu notre nature. Il était sans péché, mais il a été soumis dans sa chair à toutes les conséquences du péché. Il a souffert. Il a été angoissé. Il a pleuré. Il a connu ce que c'était que la fatigue à l'heure du midi, quand il s'est assis au bord du puits dans une ville de Samarie. Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi où? Dans une tempête. Habituellement, on ne dort pas dans la tempête. Eh bien, lui, il s'est endormi dans la tempête, alors que la barque était menacée par les flots. Eh bien, il est donc venu en chair. Eh bien, celui qui croit cela, il est de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, eh bien, n'est pas de Dieu. C'est lui, l'Antichrist. C'est lui qui a l'esprit de l'Antichrist, hein, dont vous avez appris la venue. Il y a un homme qui bientôt paraîtra, se manifestera, il est peut-être déjà né, mais qui va se manifester et qui prendra le visage du Christ, qui voudra se faire passer pour le Christ. Et à cet homme, le diable donnera toute sa puissance pour qu'il puisse faire des miracles. Et on est dans un temps où les gens se préparent à cela. Parce qu'est-ce qu'ils veulent, les gens aujourd'hui? Des miracles. Ils veulent voir des miracles pour croire. Eh bien, ils seront bientôt servis. Il y aura des miracles, une puissance miraculeuse qui se manifestera. Et tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront à ces miracles mensongers. Il y aura un homme qui fera descendre le feu du ciel comme s'il était Élie. Hein? Et il arrivera à faire cela. Mais par quelle puissance? La puissance de Satan. Et les Juifs même, ce peuple qui est déjà retourné en Palestine, eh bien, ce peuple, il est dit que ils le recevront comme leur Messie. C'est quand même terrible d'abord, hein, ce qui attend les Juifs. Ils croiront au mensonge, pas à tous, hein, mais une grande partie du peuple qui est rentré là-bas dans l'incrédulité, et je connais leur incrédulité, je sais ce qu'ils me disent. Ils n'attendent pas du tout la reconstruction du temple, c'est pas ça. Et puis, la bénédiction milléniale, c'est leur sueur qui fait germer la terre, c'est leur travail, c'est eux-mêmes et qui arriveront à triompher. Alors, quand cet homme sera manifesté, Jésus l'a dit, « Moi qui suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, vous ne me recevez. Mais quand il en viendra un autre en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » C'est quand même terrible. Et il est dit que parce que les hommes n'auront pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront le mensonge. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez déjà? Les gens sont tout prêts à croire le mensonge. Il y a une crédulité extraordinaire chez qui? Chez les incrédules. La crédulité est chez les incrédules. Ils croient n'importe quoi. Hein? Faut que je touche du bois. Vous les connaissez, ces gens-là? Ils disent, oh, comment allez-vous? Oh, je vais très bien jusqu'à présent. Oh, tout font du bois. Ils croient au bois. Tout font du bois. C'est quelque chose de terrible, mais voilà comme nous sommes des tordus. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous. Mais vous ne trouvez pas c'est merveilleux? Celui qui est à côté de vous? Non, celui qui est en vous. Il est plus grand que quoi? Que celui qui est dans le monde, mais il faut que ce soit vrai pour nous. Est-ce que vous croyez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde? Pourquoi vous avez peur de ce qui va arriver dans le monde? Il y a quelqu'un de plus grand en nous que celui qui est dans le monde et qui va faire sauter le monde. Ou qui croit pouvoir faire sauter le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais qu'est-ce que vous écoutez à la télévision? Oh, vous me direz, on écoute des émissions religieuses. Que ça? Menteur. Mais nous sommes des menteurs. Puis moi le premier, je sais. On trouve toujours des excuses. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et voyez-vous, on est tellement influencé maintenant, d'après tout ce qu'on entend, qu'on parle aussi d'après le monde. Et le monde les écoute. Et même maintenant, dans les milieux religieux aussi, et je n'en accepte aucun, eh bien, on s'amasse des docteurs selon nos convoitises. On aime entendre des choses agréables, parce qu'on a une maladie qui s'appelle la démangeaison des oreilles. Je sais qu'on peut se les couper les oreilles, hein, comme on l'a dit hier soir. Hein. Mais cette chirurgie-là, coupeur d'oreilles, parce que ça démange, on a la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui correspondent à tout ce que nous pensons, des choses qui nous confirment dans nos idées. Alors que peut-être justement la parole va devoir nous corriger sur un point ou sur un autre, mais on n'aime pas se laisser corriger. Et pourtant, il faudrait se laisser corriger. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et c'est vrai, quand on peut rencontrer un vrai chrétien, qu'on peut tout de suite parler du Seigneur, non pas de division, non pas de ce qui nous sépare d'abord, mais de sa personne. Au fond, cette rencontre de Marie et d'Élisabeth, il y a un tressaillement de joie. Il y a un tressaillement de joie. L'enfant a tressailli dans son cœur. Oh, j'aime Ein Carême, le lieu où Marie, venant de Nazareth, hein, a fait ce long voyage, puis elle arrive dans les montagnes de Juda, puis elle salue sa vieille cousine, et puis il y a un tressaillement dans le sein d'Élisabeth. Il y a de la joie quand on rencontre un vrai croyant. On ne s'occupe pas de savoir quelle est son étiquette, ou quelle est sa religion, mais on le sent, c'est une personne qui est habitée par le Seigneur. Et il est tellement grand dans cette personne qu'on s'en rend compte immédiatement. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. On peut ne pas avoir exactement les mêmes pensées sur un point ou sur un autre, mais on peut quand même s'écouter. Parce que justement, quand on est de Dieu, on sait qu'on n'a pas tout compris. Et on est petit à nos propres yeux. Et on est humble, et on estime qu'on peut recevoir encore un peu de lumière de quelqu'un d'autre. Alors c'est par cela que nous connaissons la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, et car l'amour, il est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté comme la vie éternelle a été manifestée. Cette vie éternelle, c'est l'amour de Dieu. Qui est l'amour de Dieu? C'est son Fils. C'est son unique. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qui est l'amour du Père? C'est quelqu'un. C'est Jésus qui est l'amour du Père. Et c'est Jésus qui est en nous. Et c'est à cause de cela que nous n'aimons pas le monde. Parce que nous savons ce que le monde a fait à Jésus. Si je veux connaître ce qu'est le monde, c'est pas en allant goûter un peu ce qui se passe dans le monde, mais c'est en me souvenant qu'est-ce que le monde a fait à mon sauveur. Il l'a crucifié. Alors vous avez besoin d'aller faire des expériences dans ce monde? Et qu'est-ce que le monde vous donnera quand vous aurez fait toutes sortes d'expériences? Qu'est-ce qu'il vous donnera? Un trou. Et je veux qu'on danse et je veux qu'on chante quand on me mettra dans le trou. Hein? C'est un chanteur belge qui dit ça. Hein? C'est tout ce que le monde va vous donner. Tandis que Jésus, qu'est-ce qu'il nous a préparé? Une place dans le ciel. Et c'est ça qui compte. Tandis qu'au ciel, ma place est prête. Ici-bas, j'ai la paix du cœur. Ce qui compte, c'est que j'ai une place auprès du Seigneur. L'amour a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Par qui est-ce que nous allons vivre? Par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors bien aimé, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Voilà le traité le plus évangélique. Hein. C'est cet amour. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et son esprit, c'est une réalité sensible en nous qui nous fait éprouver tant de choses. Nous ne voulons pas le contrister et je sais très bien quand je contriste le Saint-Esprit. Il y a comme un coup de cloche en moi, je suis malheureux. Alors je me juge de cela. J'ai eu une pensée, ou j'ai dit une parole, ou j'ai eu un geste qui n'est pas selon le Seigneur, alors je m'en juge. Mais si je ne veux pas me juger, malgré la critique de l'esprit en moi, qu'est-ce qui arrive? Je le contriste. On contriste le Saint-Esprit, on l'attriste. Et c'est ça notre tristesse, nos mauvaises tristesses. Le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Il voudrait nous réjouir. C'est un esprit de joie. Mais quand le Saint-Esprit est triste, on la sent cette tristesse. Mais on n'a pas besoin de rester triste. Parce que Jésus a dit, personne ne vous ôte votre joie. Alors, si je n'ai plus la joie, c'est qu'il y a péché, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, j'ai à confesser mon péché. Et à appeler la chose péché, non pas, mais c'est un petit péché mignon, vous n'allez quand même pas dire que ça c'est un péché. Et alors, avec tous nos péchés mignons, c'est un gros sac qu'on finit par porter. Hein. Parce que accumuler tous vos péchés mignons, et puis, ça devient une grosseur. Hein. Vous savez comment commence un cancer aussi? C'est une petite bosse, c'est mignon. Je l'aime tellement que je la caresse. Puis tout à coup, elle me mange. Attention, péché mignon. Attention à ce que nous tolérons. Oh, on a ces petites tendances. Mais ça, c'est mon caractère. C'est ce que j'ai hérité de ma grand-mère. Non, de mon grand-père. Il faut quand même qu'il reste quelque chose de mes racines. Surtout quand on s'appelle Racine. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que vous avez à dire? Dieu demeure en lui, c'est pas moi qui le dis. Je ne sais pas ce que vous allez dire après cette retraite, mais ce que je vous supplie, c'est de relire ces textes. Puis qu'il ne reste pas dans la Bible, mais qu'il se fixe dans votre sensibilité. Dieu demeure en lui et lui en Dieu, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, nous sommes aussi dans le monde. Mais alors, il faut voir ce qu'il est, il faut le contempler, il est dans la gloire. Il se tient là, debout, pour moi, dans la gloire. Et quand Dieu veut me regarder, il regarde qui? Son Fils. C'est lui qui est ma vie. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui nous donne de la joie. Dieu me regarde dans la perfection de son Fils. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance pour le jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est en retour à son amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, ben, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, hein? Je dois donc voir Dieu dans mes frères. Et ça, ça change complètement mon optique. Et quand je dis mes frères, je dis tous les hommes. Si vous commenciez par voir le Seigneur chez les autres, parce qu'il est aussi chez les autres, c'est ce que le Seigneur nous a montré. Car il a créé l'homme à son image. Et il veut que nous puissions voir d'abord Jésus chez les autres. Et même un étranger, quand je le reçois, je devrais le recevoir comme qui? Comme si c'était Jésus-Christ. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il est. Je ne sais pas ce qu'il croit. Mais je devrais le recevoir comme si c'était Jésus. Quelle que soit la couleur de sa peau. Hein? Voilà le remède antiracial. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mon frère, c'est peut-être le Samaritain. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Donc, cette nouvelle naissance, elle est faite. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc quiconque aime Dieu, c'est lui qui nous a engendré, il aime aussi celui qui est né de lui. Même si il ne m'apparaît pas être de la même famille que moi, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors il est parlé de garder sa parole. Garder sa parole, c'est garder la pensée générale de Dieu, avoir la pensée de Dieu. Garder ses commandements, c'est garder des points précis. Or, nous devons non pas être seulement de ceux qui gardent ses commandements, tout n'est pas dit dans l'Écriture, hein, mais il y a des commandements qui sont précis, c'est vrai, mais il y a aussi sa parole en général. Et nous devons garder sa parole. Il faudra avoir du temps pour développer ça. Je l'ai déjà fait ici même. Alors j'espère que ceux qui étaient là se souviennent de la différence entre garder ses commandements et garder sa parole. Car ses commandements ne sont pas pénibles. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pénibles? Qu'est-ce qui les vit? C'est Christ en nous. La vie chrétienne, c'est pas moi qui la vis, c'est le Christ qui la vit en moi. Alors j'ai qu'à laisser le Seigneur faire ce qu'il veut dans ma vie. Le Seigneur a besoin de vos corps. Il a eu un jour besoin d'un corps. Et qui est-ce qui a répondu oui? Mais ne l'oubliez pas quand même. Il y a une femme, une jeune fille qui a dit oui. Elle s'est laissée faire. Mais ça a été une vie de souffrance aussi pour elle. Alors, souvenez-vous bien de cela. Le Seigneur a besoin de vos corps parce qu'il voudrait se manifester mais c'est lui justement qui va accomplir en nous ses commandements et ils ne sont pas pénibles puisque c'est lui qui le fait, alors on le contemple agissant en nous car vraiment, quand c'est la volonté de Dieu c'est Dieu qui donne la force de l'accomplir, c'est toujours une preuve. Dieu ne vous demande pas de faire quelque chose avec votre propre force, parce que vous n'en avez pas. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est la volonté de Dieu, il vous donne la force. Alors vous n'êtes pas crevé. Vous êtes renouvelé par cette puissance de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais une foi qui est toujours en activité, c'est pas j'ai eu la foi hier, il y a X années, hein, mais j'ai la foi aujourd'hui. La foi d'aujourd'hui, une foi qui se renouvelle de jour en jour. C'est une foi, dit Paul dans les Galates, une foi qui est agissante par quoi ? Par l'amour. La foi agissante par l'amour. Alors, voulez-vous plus de foi ? Regardez à quoi en est votre amour. Sans ça, ça ne marchera pas. Vous voulez plus de foi, mais vous n'aimez pas. Alors, la foi ne peut pas agir. La foi, elle est rendue agissante par l'amour. Le gaz, là, si vous voulez reprendre cette expression, c'est l'amour qui va rendre la foi agissante et qui vous permettra d'avancer, de circuler. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Et il y a quelques personnes qui ont peut-être, qui se sont posées des questions. Ce triple témoignage, eh bien j'espère que le Seigneur va vous éclairer. Le Seigneur Jésus est venu avec l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Il a apporté la parole. Et chaque fois que vous trouvez l'eau dans l'Écriture, c'est toujours question de la parole de Dieu. La parole qui doit nous purifier. Et il est entré dans l'eau du baptême. Il a commencé par nous montrer qu'il faut d'abord se repentir. Est-ce qu'il avait besoin de se repentir, lui ? Non. Mais si lui est entré dans l'eau du Jourdain, c'est pour prendre sur lui les péchés que tous les autres y avaient mis. Il est entré déjà là pour prendre sur lui nos péchés. Mais il est entré dans l'eau. Et il nous montre que la première parole, c'est vraiment l'eau qui purifie. Il faut commencer par se repentir pour être rendu pur. Mais il n'est pas seulement venu avec l'eau, il est venu avec le sang. Il a participé au sang et à la chair. Alors, si l'eau purifie, le lavage d'eau par la parole de Dieu, chaque fois que vous lisez un passage de la Bible, ça vous lave. Hein? Ça vous lave aussi dans vos pensées. Même si vous dites que vous n'avez pas de mémoire, ça ne vaut pas la peine que je lise la Bible parce que je n'ai pas de mémoire. Eh bien, la lecture de la Bible vous lave. C'est un vrai lavage. Et puis, ensuite, le sang, eh bien, vous savez que c'est le sang qui expie. L'eau purifie et le sang expie. Et quand on a percé le cœur du Seigneur, qu'est-ce qu'il est sorti ? L'eau et le sang, n'est-ce pas ? Et qui sont sortis de son cœur et qui rendent témoignage que l'œuvre est accomplie. Mais il y avait aussi l'Esprit. Quand le Seigneur a été au Jourdain et qu'il était en prière dans l'eau, qu'est-ce qui est descendu sur lui ? Le Saint-Esprit sous une forme corporelle. Et on a entendu la voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc, il y a là trois témoignages, l'Esprit, l'eau et le sang. Et c'est pourquoi Jésus disait qu'il fallait naître d'eau et de l'Esprit. Naître d'eau, c'est naître de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait naître. Le baptême en est l'image. Mais ensuite, il ne faut pas seulement que nous soyons nés d'eau, que nous sortions de la parole de Dieu, que ce soit la parole qui nous... Vous avez été engendrés par la vivante et permanente parole de Dieu. Hein? C'est ça. Alors les trois rendent témoignage et sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, vous connaissez bien le passage, hein, ça vous connaissez ça par cœur parce que vous l'employez pour chercher à sauver les âmes. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, il a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur. Vous pourriez voir combien de fois il est parlé que Dieu, on le fait menteur dans cet épître. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et quel est ce témoignage que nous pouvons croire, puisque Dieu est plus grand que les hommes, hein. Si vous croyez ce que les hommes vous disent, ce que Dieu dit est plus valable encore, parce que Dieu ne peut pas nous mentir. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné, il est dit nous donnera, non, il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie, elle est où? Dans son Fils. Alors, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous espériez, non, que vous sachiez, il est question d'une certitude, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons maintenant quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Le vrai problème de l'heure, il peut avoir sa solution, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, alors là vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce que c'est ce péché qui mène à la mort? Un péché qui mène à la mort, c'est une attitude. Si je suis au Seigneur, un péché qui mène à la mort, vraiment, c'est un péché de croyant, de chrétien, qui ne me permet plus d'être un témoin. Je ne suis pas perdu pour autant quant à l'éternité, mais je suis perdu comme témoin. Le Seigneur me retranche. Quel exemple pouvons-nous donner? Dans Actes, Ananias et Saphira, ils étaient sauvés, mais ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ne pouvaient plus être témoins parce que ça aurait été tout de suite une gangrène et c'était un péché d'imitation. Ils ont voulu imiter quelqu'un qui avait plus de foi qu'eux, qui s'appelait Barnabas. Barnabas avait fait un beau geste et eux ils se disent c'est bien hein, de vendre une propriété. Mais ils n'ont pas la même foi que Barnabas et ils disent il faut garder une poire pour la soif. Ils pouvaient le faire. Mais ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, c'est de dire, voilà, c'est le prix du champ. Là, ils ont fait ce qu'on appelle une dissimulation. Hein. Et alors, c'est pas Pierre qui l'a fait mourir. Mais quand il entend cette parole, il meurt. Il est retranché. Et sa femme, qui est de connivence avec lui, meurt aussi. Et alors, on pourrait prendre dans l'Ancien Testament plusieurs hommes qui ont commis des péchés, qui les ont conduits à la mort. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un péché spécifique. À première vue, on pourrait penser que de qui David aurait pu commettre un péché qui mène à la mort. Il a été adultère, et ce n'était pas un péché qui amenait à la mort. Donc vous ne pouvez pas dire, celui qui commet adultère, ben, c'est un péché qui mène vraiment à la mort. Ce n'est pas pour vous dire, ben, commettez adultère. Ne tordez pas mes paroles. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas dire que c'est un péché spécifique. Mais à quand, lui, il a commis un péché qui menait à la mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoité. Il a vu un manteau, figurez-vous, je suis quand même bien content d'avoir un manteau. J'avais perdu le mien, puis j'en ai reçu un autre encore. Vous l'avez vu, hein? Je l'ai reçu à Bruxelles. D'une personne que j'ai visitée au mois d'octobre l'année passée, et je lui ai annoncé que son mari allait mourir. On m'en a voulu terriblement, pas à eux, mais un ami qui était avec moi, qui m'a dit, tu vas quand même trop fort les préparer comme ça. Au départ, il avait 50 ans. Puis ils ont été tellement heureux, tellement reconnaissants, que j'ai eu le courage de leur dire qu'ils allaient être séparés, et puis d'encourager la jeune femme, que l'autre jour j'ai dîné chez elle. Elle m'a dit, je voudrais que vous portiez maintenant le manteau de votre mari, de mon mari. Alors je suis revenue avec ce manteau-là, parce que elle a voulu que, dans un climat comme le Canada, eh bien, son mari mort puisse continuer de me réchauffer. Dans un sens. Non. Mais vous ne trouvez pas que c'est beau quand même? Je ne pouvais pas refuser ça. Elle était tellement reconnaissante. Et si vous savez ce qu'elle était heureuse que je sois partie avec ce manteau. Mais je me suis dit, ça va être lourd. Puis il était beau ce manteau. Et puis j'ai envie de devoir payer à la douane, pas seulement à la douane, mais un surplus de bagages. Puis pendant la nuit, le Seigneur m'a dit, pourquoi tu fais des soucis? C'est moi qui suis ta vie. Puis quand je suis arrivé au comptoir, surtout que ça allait par Amsterdam, donc ils m'ont pris tous mes bagages, puis c'est tout. Ils ne m'ont pas dit qu'il y avait 10 ou 20 kilos de trop. Mais c'est ça, je dois me m'humilier parce que j'ai des fois des soucis, même dans la nuit. Et tout d'un coup, le Seigneur me parle. Pourquoi tu fais des soucis? Mais ce n'est pas parce qu'on veut faire quelque chose de mal. Hein. Mais voilà, on a une nature peut-être soucieuse. Et alors on ne dort pas à cause de ça. Le Seigneur voudrait qu'on dorme. Au moins le temps qu'il faut. C'est peut-être pas nécessaire de dormir très longtemps. Mes amis, c'est du vrai, ces choses. Le Seigneur s'occupe de nous. Alors, je n'avance pas plus avec le péché qui mène à la mort. Ce n'est pas un péché spécifique. Mais si quelqu'un voit son frère commettre un péché, au lieu de ne rien lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi qui es spirituel, va, reprends-le entre toi et lui seul. Va pas colporter cela, mais attire son attention et lui dit, tu sais, ce que tu fais là n'est pas bien. Mais on attend que les gens soient tout à fait dans le trou, puis on dit, ah, je le savais bien. Puis on ne les a pas avertis. Mais on devait avertir. Il faut s'avertir les uns les autres. Puis il faut prier les uns pour les autres. Et alors quand on va trouver son frère pour lui faire peut-être une remarque, on s'est d'abord humilié soi-même. On s'est mis à genoux. Nous parlions de cela avec Malcolm tout à l'heure. Eh bien, c'est quand on voit un homme qui s'humilie, que l'on est touché vraiment, et que l'on peut se convertir. Si moi je fais comme Eliu qui parle à Job et qui lui dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, mais je suis comme toi quant à Dieu. Ma frayeur ne te troublera pas, mon poids ne t'accablera pas, je viens pas pour te laver la tête. Je voudrais seulement que tu me laisses te laver les pieds, puis pas avec de l'eau bouillante. Je ne voudrais pas te faire mal, mais je voudrais seulement t'avertir. Tu ne penses pas que tu es en danger en faisant cela? Et vous pourriez peut-être sauver une âme d'une grande détresse. Si vous saviez, vous y prendrez temps, mais n'allez pas raconter la chose ailleurs. Et il y a un péché qui mène à la mort, mais ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Pierre n'a pas ressuscité Ananias après qu'il soit tombé mort. Hein. Il aurait pu faire ça. Non, mais Ananias ne pouvait plus être un témoin. Alors c'est pour ça que Paul lui-même dit, moi je fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à mes yeux, pourvu que j'achève ma course. Parce qu'on peut mourir avant d'avoir achevé sa course. Dieu avait en vue un ministère plus long, Dieu avait en vue qu'on soit davantage encore en bénédiction, mais voilà, parce qu'on n'a pas su veiller, on est tombé, et le Seigneur ne peut plus nous employer. Et j'ai connu, dans ces années de ministère, des gens qui sont certainement sauvés, mais qui ont été retranchés, parce qu'ils ne pouvaient plus être des témoins. On les avait connus comme prêchant l'Évangile, et puis après, eh bien, ils ont déshonoré le Seigneur. Toute iniquité est un péché. Et y a-t-il péché qui ne mène pas à la mort? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On peut encore tomber dans le péché. Mais si on a péché, qu'est-ce que nous avons? Un avocat. Automatiquement, quand je pêche, la communion avec Dieu est interrompue. Alors j'ai le signal, je suis malheureux. Et cette souffrance qui est dans mon cœur m'amène à confesser mon péché. Et alors Jésus présente son sang. Il présente son sang à Dieu et dit, mais j'ai aussi payé pour ce péché-là. Et alors Dieu rétablit la communion. C'est comme un père avec ses enfants. Je ne peux pas donner le baiser à mon fils tant qu'il me désobéit. Mais quand il revient et qu'il confesse sa faute, je peux lui donner le baiser de la réconciliation. Alors pendant qu'il était désobéissant, est-ce qu'il n'était plus mon enfant? Mais non, la relation n'était plus la même. Mais il était toujours mon enfant. Alors vous ne perdez pas votre salut. Mais ce que vous perdez, c'est la communion avec le Seigneur. Et c'est ça qui est tellement important de garder. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Mais il faut se garder soi-même. Il ne faut pas dire, oh mais moi je peux aller jusque-là, hein, mais je m'arrêterai. C'est justement ça. Vous courez en face de la tentation, si après vous voulez que... J'en ai fait l'expérience. Je n'avais pas mis mes bottes tout à l'heure, puis j'étais là-haut, puis j'ai risqué de glisser plusieurs fois. J'avais qu'à mettre mes bottes. Mais j'ai pensé que je pouvais y aller comme ça. Hein. Puis à plusieurs reprises, puis j'ai risqué de m'étaler. C'est ma faute. Alors, il fallait que je me garde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour me garder? Parce qu'il fallait quand même que je finisse la réunion. Hein. Sans ça, vous auriez dit, là, on voit bien ce qui est arrivé, il n'est pas mort cette nuit, mais il s'est cassé les jambes. Vous n'auriez pas manqué de dire ça. Hein. Alors, il fallait quand même que je me garde. Vous voyez, il se garde lui-même. Donc, comment est-ce que je pouvais faire pour me garder moi-même? C'est de ne pas marcher au milieu de la route, c'est de marcher sur le bord dans l'herbe parce que ça retenait. Ben voilà, vous voyez, c'est simple. Mais l'écriture, il faut les prendre comme un enfant. Il se garde lui-même. Et puis le malin ne le touche pas. Vous, le diable aurait bien voulu me toucher ce matin. Alors, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, pour le monde, nous le savons. Mais nous savons aussi, vous pouvez méditer sur tous les nous, sur tous les savons, non. Sur tous les nous savons. Je ne vais pas dire.